Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du livre Le Growth Hacking que je viens de sortir le 1er septembre 2020, donc quasiment 3 ans après la sortie de la V1. Et donc en fait, je vais essayer de vous dire bon, bien sûr ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce que vous allez apprendre dedans, les petits conseils, les plans d'action, etc., etc. Donc en fait, je vais vous dire les secrets de ce premier livre qui en fait est plus qu'une simple mise à jour du livre, c'est vraiment une nouvelle version puisqu'en fait on a réécrit à peu près 30% du bouquin et sans parler de toutes les petites corrections qu'on a fait à droite à gauche. Donc en fait c'est quand même été un gros boulot. Au début moi je pensais que ça allait faire bon, un truc assez simple, et puis c'est vrai que plus on a commencé à lire le livre on s'est dit ah ouais ça a évolué, ah non ça faut pas changer, ça faut par contre bouger, ça faut ajouter, enfin ceci cela. Bref, enfin on a vraiment fait un gros boulot et je vais tout vous dire dans cet enregistrement et je vous explique un petit peu les petites techniques qu'on a ajoutées, des petites stratégies, des choses comme ça. Alors juste pour information, le bouquin il est toujours dispo à la Fnac à 25 €. Donc vous allez à la Fnac, vous allez chez Amazon, vous allez chez votre libraire préféré et vous pouvez le trouver. Si jamais il n'y est pas, demandez-le en rayon. Comme ça en fait, ça fera qu'il y aura des réapprovisionnements et vous pourrez le revoir prochainement. J'ai également créé un petit pack en fait formation Le Growth Hacking 2020. Plus le livre dédicacé envoyé directement chez vous. Donc ça, si ça vous intéresse, vous allez en fait sur mon site et je vous enverrai ça. Donc le bouquin à 25 balles et la formation et le livre dédicacé à 60 €. Alors donc déjà, la première chose, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Qu'est-ce qui a changé à part la couverture? en fait, c'est simple, on a vraiment écrit beaucoup de choses. Déjà aussi, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est si j'ai déjà acheté la version 1 du livre, est-ce que ça vaut le coup d'acheter la V2? Alors ma réponse va être très simple, c'est non si vous avez déjà appliqué les bases de la méthode. Par contre, ça peut être oui si vous n'avez pas vraiment trop appliqué les choses et que vous avez juste lu en diagonale le bouquin et vous n'avez pas vraiment mis en application les stratégies de cross-hacking. Là, ça vous aidera puisqu'en fait le bouquin a été revu avec des stratégies un peu plus modernes et en particulier j'ai rajouté un petit chapitre qui se retrouve à la fin du livre et qui permet tout simplement d'analyser le business en fait d'une activité de faire un petit bilan et savoir où agir en priorité. C'est un petit peu un audit stratégique qu'on fait grosso modo en une heure ou deux. Et en une heure ou deux, on a la possibilité de définir quelles sont les actions prioritaires, où je dois agir en priorité, quelles sont les faiblesses de mon business, etc. etc. Donc c'est vraiment un petit truc simple. C'est un audit que moi j'utilise lorsque une personne me dit attends, quel est ton boulot? Est-ce que tu peux m'aider? Comment je peux faire pour doper mes ventes, etc. etc. Donc c'est vraiment des actions simples à mettre en place. Donc comme je vous disais, on a écrit 30% de bouquin, on est à plus de 277 pages de lecture. Alors ça se lit comme relativement vite, puisque tout simplement en fait on raconte pas mal d'anecdotes, d'histoires, etc., etc. Donc grosso modo, le livre il est défini en 8 semaines, grosso modo. La première semaine qui est avant de vous lancer, c'est un petit peu réfléchir à son produit, son offre, etc. La deuxième, créer un site web, landing page, etc. Recruter les prospects, ça c'est la publicité. La blitzkrieg avec le contact hacking, c'est essayer de générer du trafic via les médias sociaux, les blogs, le référencement, etc. Ensuite, semaine 5, former vos bataillons et recruter les mercenaires, c'est vraiment dédié sur l'affiliation, la génération de trafic, recruter une assistante virtuelle, etc. Semaine 6, occuper le terrain, et en fait tout simplement là on va essayer d'améliorer un peu les fondations. Automatiser le business, en fait on va parler de tous les outils d'automatisation, scraping, automatisation avec par exemple Zapier, Jarvie, etc., etc. Et la 8e semaine est vraiment consacrée à tout ce qui était montée en puissance, c'est-à-dire tout ce qui est optimisation du revenu, onboarding process, etc., etc. Et donc à la fin, le fameux chapitre dont je vous ai parlé, c'est l'optimisation du business. Voilà. Donc ça c'est grosso modo le déroulé. Et on a supprimé en fait pas mal de petits tutos avec des captures écran qui n'étaient pas forcément super intéressants. Par exemple, il y avait des tutos sur Facebook Ads, parce qu'à l'époque c'était assez nouveau, c'était assez neuf, pas grand monde savait vraiment bien utiliser Facebook Ads. Et c'était vraiment important de mettre ça. Et donc à la place, en fait, on a mis plutôt des conseils et des astuces tirées de cas pratiques qu'on avait. Et c'était quand même beaucoup plus intéressant que de mettre un tuto sur comment faire des publicités Facebook Ads. Hein, que vous connaissez déjà. On a aussi rajouté pas mal d'outils, mais en fait, moi j'avais une liste de plus de 150 d'ailleurs outils hein, de gros hacking. Si jamais vous êtes intéressé, vous tapez outils de gros hacking et conseil marketing, vous trouverez sur internet cette fameuse liste qui est vraiment assez énorme. Je pense que c'est la seule du web qui est aussi complète. Hein. Et donc, j'ai mis donc quoi, une vingtaine d'outils importants, et après, donc il y a cet article sur mon site qui permet vraiment d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà. Donc le nouveau chapitre, en fait, c'est simple, c'est le framework AR, c'est l'analyse d'un business existant. En fait, le plan d'action qu'il y aura à la fin de ce chapitre, c'est simple, c'est analyser l'activité avec le framework AR, donc acquisition, activation, donc rétention, revenus et référol, hein, recommandation. Donc en fait, vous avez tout ça, et ça vous permettra en fait d'aller vraiment faire un petit bilan. Le but, c'est d'identifier très rapidement une quick win. Une quick win, qu'est-ce que c'est? C'est une action qu'on peut mettre en place tout de suite, et une action un peu plus long terme qui va permettre de donner des résultats sur plus long terme. C'est super important de faire ça. D'ailleurs, là actuellement, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle 90 jours pour réussir sa prise de poste. Et ce qui est intéressant, c'est que ce bouquin-là peut être utilisé dans n'importe quel cas, n'importe quelle entreprise, que vous preniez un job de base comme génération growth hacker ou pour générer du trafic ou manager ou peu importe. Ce bouquin-là est intéressant. Et comme moi, en fait, ce bouquin, il indique qu'il faut faire des quick wins au départ et des actions un peu de fond. Pas que des quick wins parce qu'autrement, vous allez faire que des micros. Amélioration, mais au départ, gagner des victoires rapides avec ces fameux quick wins pour gagner en confiance, gagner la confiance des managers, etc. etc. Voilà, donc à la fin de ce chapitre, hein, c'est simple, ce que je demande, voilà, les actions, analyser son activité, grosso modo, comme je vous disais, c'est 2 heures, j'ai mis 2 heures, 2 heures et demie. L'action prioritaire, hein, tout simplement, qui sera le fil rouge au niveau du trimestre, ça c'est important. Moi, je définis vraiment les priorités sur le trimestre, puisque à la semaine, au mois, etc., c'est pas suffisant. Pour vous livrer mon petit secret de fabrique, c'est en fait tous les jours, je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire qui va véritablement générer du business et faire la différence. Au lieu de faire ma to-do list en partant, voilà tout ce que j'ai à faire, je lui dis, Fred, qu'est-ce qui va vraiment apporter du business? Qu'est-ce qui va vraiment générer du trafic, du business, du chiffre d'affaires? Et je définis cette action et j'essaie de la faire en priorité dans la journée. Et c'est qu'après, en fait, que j'essaye de gérer ça. Pareil, au niveau des réunions, maintenant, j'essaye de définir des réunions en début de matinée et en fin de journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec les réunions en fait en milieu de journée, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez en fait bouffer du temps et vous n'allez pas réussir à travailler sur des plages longues de travail pour faire avancer vos projets. Et moi, je vous invite vraiment à suivre cette méthode-là, à essayer de faire des réunions bon courtes, mais et également à faire des réunions plutôt en fin de journée, en début de journée. Ça, c'est super vrai pour tout ce qui est les gens qui sont opérationnels. Quand on est manager, au contraire, bah forcément, quand on est directeur, on va plutôt travailler en demi-heure et on va essayer de faire des réunions qui durent d'une demi-heure ou des réunions de prise de décision, des points, etc., etc., pour faire avancer les choses, parce que le métier d'un directeur, d'un manager, c'est de décider, tandis que quand vous êtes opérationnel, et bien au contraire, vous devez avoir des plages longues de travail pour avancer sur vos projets. Donc ça, c'est vraiment important. L'autre point également, bon, j'en parle pas dans le bouquin, mais je vous donne vraiment cette astuce-là, c'est travailler avec des deadlines, travailler avec des réunions. Moi, en fait, mon meilleur moyen pour avancer sur les sujets, c'est je dis fixez-moi une réunion ou je fixe une réunion. Et en fait, en fixant une réunion à une date donnée, qu'est-ce qu'on a? On a une date butoir. Et donc, en fait, on est obligé de préparer quelque chose pour cette date-là. Donc, faites toujours ça, préparez toujours une date de réunion pour ça, une date de remise, peu importe. Voilà, ça c'est vraiment essentiel. Donc, la priorité trimestrielle, ça c'est vraiment ce que j'aime travailler. La priorité trimestrielle, c'est pas une action, c'est soit un lancement de produit, soit c'est un canal de communication. Et en fait, c'est le fil rouge. Pendant un trimestre entier, vous allez travailler là-dessus. Voilà. Donc ensuite, trouver les meilleures idées, ça c'est les fameuses quick wins, ça j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est vraiment essayer d'optimiser son framework AR, en fait, son cycle de vente. Voilà, et après le petit bilan. Donc ça c'est le truc de base, vous voyez, ça c'est le plan d'action pour la semaine d'audit là. De la semaine bonus. Et ça, en fait, j'ai vraiment fait ce chapitre-là, c'est moi qui l'ai écrit, parce que tout simplement, il y a pas mal de gens qui avaient acheté le bouquin et qui m'ont dit, Fred, c'est sympa, mais c'est vraiment trop orienté dans son produit. Moi, j'ai pas vraiment de ça, besoin de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un business existant, comment je peux le doper? Et là, en fait, c'est pour ça que j'ai créé ce chapitre-là, parce que moi, je m'en servais pour mes audits, et avec conseil marketing, il y avait d'autres activités, et c'était vraiment intéressant de le mettre dans le bouquin. Voilà. Après, en fait, on revient sur la semaine 1. La semaine 1, en fait, c'est avant se lancer dans la bataille. Donc, c'est vraiment affirmer le fait que votre offre est confirmée aussi en même temps, que votre offre correspond bien à un marché solvable et qu'on a vraiment les bases pour la croissance. Donc, en fait, le truc, c'est la killer feature. Ça, j'en parle vraiment tout le temps. La killer feature, c'est la fonctionnalité ou le service pour lequel, en fait, les gens vont commander votre produit. Ça, j'en parlais encore il y a quoi? Allez, 2 jours de ça avec une personne que je connais qui veut lancer un service sur internet. Il me dit, ouais, j'ai la possibilité de faire ça, 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 c'est un outil de cross hacking et ça faire ça. Mais je lui dis, mais ton outil de cross hacking, attends, c'est juste faire un peu mieux que ce qui existe sur le marché. Mais non, c'est pas un peu mieux, tu vois, je peux faire ça, ça. Mais non, mais moi, je suis pas prêt à payer pour ça. En fait, ce qui se passe, c'est que cette personne essaye de faire des fonctionnalités qui existent déjà sur le marché et il veut essayer de faire un peu plus joli, un peu mieux que les concurrents. Non, ça ne marche pas. Il faut quelque chose qui soit 1-0. Je fais pas un peu mieux que les concurrents, c'est pas un peu plus design, c'est pas plus facile. Non, c'est je fais quelque chose qui n'existe pas et les gens doivent acheter mon produit ou mon service pour ça. C'est la killer feature. Je dois centrer tout mon produit autour de la killer features et savoir en fait pourquoi je dois acheter ce produit. Donc voilà, c'est l'USP également, c'est Unique Selling Proposition, en quoi ce produit est différent. Voilà. Et en même temps, dans ce chapitre, on décrit le persona, en fait, on valide son offre avec des entretiens qualitatifs, et puis on modélise le parcours client avec le tunnel de vente. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le chapitre numéro 1. Alors, on l'a revu un petit peu avec une réduction en fait de tout ce qui était framework AR, parce qu'en fait, c'est plutôt expliqué dans la partie finale où en fait il y a l'audit d'un business actuel. J'ai supprimé quelques exemples qui étaient un petit peu has-been, j'en ai rajouté des nouveaux. Et je parle également de la North Star Metric. Hein. Ça c'est quelque chose dont je vous parle très régulièrement. C'est l'ONTM, The Only Metrics That Matters. C'est tout simplement n'avoir qu'un seul indicateur qui doit driver et dominer toutes les actions d'entreprise. C'est-à-dire que j'ai un filtre. Est-ce que ce que je fais là va me permettre de, par exemple, générer du chiffre d'affaires? Voilà. Et donc ça c'est vraiment le truc essentiel. Et the one thing, hein, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est la chose pour laquelle il va y avoir un aspect décisif pour votre activité. C'est le truc qui dit ouais, s'il y a un truc qui bouge, c'est ça. Voilà. Et puis après j'ai évoqué aussi rapidement la partie T-shape du gros hacker. T-shape, qu'est-ce que c'est? C'est la forme de T. C'est-à-dire qu'un gros hacker doit vraiment être bon dans à peu près tous les domaines, c'est-à-dire qu'il doit connaître tous les domaines, mais par contre il doit être très bon dans un domaine en particulier. Ça peut être Facebook Ads, ça peut être le SEO, ça peut être le content, ça peut être la génération de trafic. Bref, un T-shape, c'est souvent en fait un gros hacker qui a une spécialité. Par exemple, je connais des T-shapes ou gros hackers qui sont vraiment orientés dev. Moi, c'est pas du tout mon cas, je suis plutôt orienté sur content, sur offre, etc. etc. Voilà. Alors, la semaine numéro 2, c'est le camp de base. C'est ce qu'on disait, c'était mettre en place un site avec, pour moi, il faut utiliser Thrive Team, ThemeForest et puis WordPress, créer une landing page. Et là, en fait, tout ce qui est landing page a été totalement revu par Olivier, qui est le troisième auteur du bouquin. Et donc, en fait, il a proposé une méthode qui est vraiment simple. Moi, c'est pas celle que j'utilise exactement pour faire une landing page, mais c'est une méthode qui est vraiment simple pour un débutant pour créer une landing page en moins de, allez, 3 heures, grosso modo. Et après, mettre en place un A/B testing et tout ce qui est chat, pop-ups, etc. pour convertir un peu mieux. Et bien sûr, la séquence de marketing automation avec 3 emails. Ça, en fait, c'est un truc qu'on a simplifié un peu dans le bouquin parce que c'était un truc qui était un petit peu long. Et ça, je l'ai un petit peu amélioré. J'ai donné des exemples un peu plus concrets, etc. etc. Donc, en fait, j'explique aussi un peu mieux la partie tunnel de vente parce qu'en fait, je pense que c'était assez important de revoir ça. Et la partie landing page s'intègre vraiment dans cette partie tunnel de vente avec les offres de cross-sell, upsell, bump, etc. etc. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai mis en place une offre bump. Hein. Bump, qu'est-ce que c'est? C'est dans le panier, on vous propose une promo spéciale sur un produit complémentaire. Ça permet, par exemple, de faire les 25% de mes ventes avec un produit en plus, quoi. Voilà. Et c'est pas négligeable, c'est 10, 20, 25, 30, 40% de chiffre d'affaires en plus, quoi. Si vous débrouillez bien, bien entendu. La semaine numéro 3, c'est recruter ses premiers prospects. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On crée ses 10 premières pages SEO. Tout simplement pour attirer des prospects chauds avec une phase de décision finale. Donc par exemple des comparatifs de produits, quel est le meilleur logiciel, etc. etc. Une petite campagne Facebook Ads, ça en fait ça a été vraiment revu aussi par Olivier. Il a retravaillé en fait la base de comment créer une campagne Facebook Ads, qu'est-ce que c'est? Bon, ça c'est un petit peu pour les débutants. Et après quelques petites astuces, là on a travaillé ensemble sur les astuces ensemble. Voilà. Et après donc on a fait une petite campagne Facebook Ads beaucoup plus simple. Et c'est vrai que là aussi Olivier a bien travaillé là-dessus en donnant des conseils, en supprimant toute la partie tuto qui était un petit peu longuette. Et on a travaillé en sur des trucs un peu plus concrets, un peu plus pratiques. Parce que aussi Facebook Ads ça a quand même pas mal évolué entre temps. C'est vrai qu'il y a quelques années c'était des stratégies où il fallait cibler des petites cibles, etc. etc. Et là maintenant on laisse quand même pas mal l'algo jouer son rôle sur Facebook. Voilà. Et puis après, un petit peu aussi de travail sur tout ce qui est travailler sur les collaborateurs. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa parce que ben, on voyait bien que le bouquin était un petit peu, je dis pas has-been, mais c'est qu'il n'était pas au top à la page en fait sur ses Facebook Ads et Google Ads. Et là, ça donnait un petit coup de jeune. On parle également, mais très 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 rapidement, de LinkedIn Ads, Taboola, Twitter Ads, etc., etc. Parce que une fois que vous avez déjà bien exploité Facebook Ads et Google Ads, ça peut être intéressant d'aller chercher ces créneaux-là, sachant que bon, bah, il faut être très clair. Pour moi, c'est vraiment de l'alternative. C'est que si vous avez déjà épuisé toutes vos cartouches, vous allez passer à ces régies-là. Ça sert à rien de le faire si vous débutez, parce qu'en fait, ça n'a pas beaucoup de trafic. C'est assez compliqué à utiliser, parce qu'à chaque fois, il faudra faire des choses entre un LinkedIn Ads, un Taboola, un Bing Ads, etc. Enfin, Bing Ads, vous pouvez récupérer les données du Google Ads, mais c'est pas hyper simple. C'est du travail. Vaut mieux se concentrer au départ sur Facebook Ads et Google Ads. C'est vraiment les plus efficaces. Et aussi, j'ai réduit un petit peu le chapitre SEO sur le livre, parce que je me suis dit, ben, c'est plus intéressant en fait d'aller se concentrer sur tout ce qui était technique de trafic payant, plutôt que de parler des SEO, qui est bah, une action qui est un peu plus longue quand même dans le temps. Vous n'allez pas récupérer vos premiers prospects en 3 semaines avec le SEO. Il faut compter 1 mois, 2 mois, 3 mois, quoi. Alors, semaine numéro 4, c'est le content hacking. Ça, c'est une partie qu'on a un petit peu bougé. J'ai vraiment réduit un peu ces trucs-là. J'ai viré la partie newsjacking. J'ai viré un certain nombre de choses qui étaient un peu trop techniques, un peu trop précises pour le commun des mortels. Donc, en fait, on a fait quelque chose qui est beaucoup plus concentré, en particulier sur le choix des mots-clés. Avec par exemple des outils comme SEMrush. Ensuite, bah, tout ce qui est influenceurs, etc., etc. Et travail en fait sur les interviews, qui est un super levier pour générer du trafic et créer du contenu pas cher et gratuitement et gagner un peu de visibilité. L'article de référence, l'article pilier, hein, qui est bien travaillé, donc j'en parle, c'est au moins 2 heures pour travailler là-dessus, faire 2500 mots minimum. Et ensuite, ben, le calendrier éditorial avec la ligne éditoriale, ça c'est définir une stratégie. Et comme je disais, le meilleur moyen de se forcer à avancer, c'est de définir en fait ce qu'on va faire et avoir une routine. Ça vraiment, j'insiste toujours, la routine c'est vraiment la clé de la réussite. Pourquoi j'ai écrit le bouquin Le Gros Hacking et j'ai réussi à faire un autre bouquin sur les chatbots cette année, c'est tout simplement parce que j'ai eu une routine. C'est-à-dire qu'en fait, tous les midis, je me prenais, ou un midi sur deux, je prenais une petite demi-heure pour écrire le bouquin et hop, je me lançais. Et à force de faire une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure, et surtout pas regarder derrière, parce qu'en fait, le problème quand on écrit comme ça un bouquin sur le long terme, on a tendance à regarder au début, on revient, etc. Non, il faut écrire au kilomètre et déployer et vraiment écrire, écrire, écrire et après faire la relecture. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc ça c'est assez sympa. J'ai parlé aussi un petit peu des contenus de snack hacking, comme par exemple l'Human 5, etc., etc., qui sont assez sympas pour sortir du lot. Donc semaine 5 après, le recrutement des mercenaires. Donc le plan d'action était simple, hein. C'était bah, des gens qu'on pouvait recruter comme affiliés ou prescripteurs et essayer en fait de les associer à votre succès. Alors ce qui est important, c'est pas faire le classique, aller envoyer un email, etc. Mais vraiment essayer d'appeler au téléphone. Vraiment, je vous le dis, le meilleur moyen d'aller mettre en place un partenariat, etc., c'est de rencontrer les gens, discuter avec eux au téléphone et pas envoyer des mails. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux et je vous le dis. J'ai essayé et la plupart des gens qui travaillent avec moi utilisent vraiment ça, voilà, le téléphone. Ensuite, faites en fait tout simplement une petite enquête de satisfaction et proposez en fait tout simplement un parrainage ou un système de témoignage auprès de vos clients. Et ça, en fait, ça va vous permettre en fait de rassurer vos clients de maintenant vont vous permettre de générer vos prospects de demain. Vous devez avoir des clients satisfaits. Hein, en cas de satisfaction, et ils doivent en fait vous aider à conquérir ou à séduire vos prospects de demain avec des témoignages. Voilà. Donc les influenceurs également, j'en ai parlé un petit peu précédemment, mais ben, tout simplement c'est un partenariat simple qui peut être très simple, guest posting, ou alors un truc un peu plus évolué comme par exemple un emailing sur des bases croisées de newsletters, c'est-à-dire que vous vous envoyez un email en parlant de tel truc et lui il envoie un email sur sa base. Alors bien entendu le but c'est pas de vendre des bases, hein, c'est vraiment de se dire tiens on fait un échange gagnant-gagnant. Voilà. Et ça peut être vraiment intéressant au début pour croître et améliorer sa visibilité. Vous pouvez également aussi créer un événement commun. Là, par exemple, à la mi-novembre, je vais organiser un sommet. On va faire à peu près 8 webinars. plus des démos en 2 jours. Et en fait, pour essayer de gagner un peu de trafic, je vais demander à des influenceurs, à des entreprises, à des syndicats, etc. Et en fait, on va animer ensemble des conférences. Donc moi, je serai entre guillemets de monsieur loyal. C'est des influenceurs qui vont présenter un petit peu les choses et qui vont prendre la parole. Et nous, en fait, on va gagner de la visibilité via ces influenceurs-là parce qu'ils vont relayer soit sur leur base, soit tout simplement sur leur communauté. Voilà. L'autre point, c'est la sous-traitance, comme je le disais. Vous pouvez en fait tout simplement sous-traiter à une assistante virtuelle, etc., etc. Donc j'explique un petit peu là comment recruter une assistante à offshore, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Donc ça fait plus de 3 ans que je travaille avec Sabrina et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important de faire. Je donne aussi un exemple d'un pod WhatsApp que j'ai depuis déjà, on va dire quasiment 9 mois, 1 an, qui me permet en fait de regrouper des partenaires et s'échange des news. D'ailleurs, dans les pods, moi je commence à m'y connaître un petit peu et c'est vrai que c'est important de garder plutôt un petit noyau de personnes et essayer d'avoir des échanges entre eux et pas juste pousser de la news et dire allez, vote pour mon article sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, etc. etc. Parce qu'en fait, le problème de ça, c'est que si vous avez trop de monde sur un groupe, un pod WhatsApp, en fait, le pod il va déborder de contenu et les gens à la fin ils vont être non, mais je peux pas suivre, il y a trop de trucs, etc. etc. Donc, essayez de faire plutôt un truc qualitatif avec des gens qui sont alignés avec vos valeurs, des gens qui ont déjà une communauté et vous allez vous apporter vraiment quelque chose et vous allez développer en fait je veux dire, un écosystème, des gens qui vont travailler avec vous, ils vont être contents de travailler avec vous. Voilà. Semaine numéro 6 maintenant, c'est occuper le terrain. Occuper le terrain, tout simplement, c'est se dire, voilà, j'ai commencé à conquérir un peu comment dire, de visibilité via Facebook, etc., etc. Mais en fait, on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc, tout simplement, il faut savoir qu'à un moment donné, ça suffit plus d'être en virtuel, ça suffit plus d'être sur LinkedIn, etc. Il faut aller rencontrer les gens, les bonnes personnes. Donc, ça peut être par exemple organiser ou participer à un événement. Ensuite, c'est aller tacler ses concurrents. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez souvent un leader sur le marché qui fait 80% du marché et vous devez en fait trouver un moyen de pouvoir aller récupérer ses clients. Alors, il y a plusieurs moyens, hein. Ça peut être tout simplement de se dire, tiens, il y a un leader dans mon secteur, j'explique pourquoi ça c'est pas bon, etc., etc. Et en fait, je crée du contenu, je crée des pages sur des fonctionnalités un peu faibles de leur contenu. J'essaie de les cibler après, par exemple, sur Facebook Ads, sur Google Ads, etc., etc. Et j'essaye vraiment d'aller capter un peu de son trafic à lui, de ce leader qui fait 80% du marché ou 50% du marché. Voilà. Et l'autre point, ça je l'explique, c'est tout simplement créer l'événement pour en fait faire de contacts en fait que vous collectionnez sur LinkedIn ou Facebook, faire de ces contacts-là qui sont un petit peu inactifs, qui sont un peu passifs et qui généralement ne voient pas beaucoup de vos news parce que sur LinkedIn vous avez beau avoir je sais pas 10 000 contacts, et il y a à peine 1% qui vont voir vos news. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un événement et par exemple leur envoyer un message avec des outils comme LinkedIn Helper, etc., etc. ou Fandom Buster, pour tout simplement leur dire tiens, il y a quelque chose qui compte. Et ça peut être un webinaire, ça peut être un livre blanc, ça peut être une soirée, ça peut être un sommet, comme je vous l'ai dit précédemment. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. La semaine numéro 7 parle tout simplement de l'automatisation. Ça, c'est vraiment un truc qui est important parce que dans le gros hacking, on s'adresse à des entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc, il faut automatiser ce qui est automatisable. Mais sans pour autant trop déshumanisé. Ça, c'est vraiment important parce que ça, c'est un vrai risque. Un vrai risque et un vrai problème. C'est les gens qui automatisent trop. Moi, je l'ai fait, hein. J'ai un peu trop automatisé et après, on se retrouve avec un monstre, un Frankenstein qui envoie des messages à votre place, qui fait des likes à votre place et puis on se retrouve dans des soucis un petit peu compliqués, quoi. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'identifier qu'est-ce qu'on peut automatiser et qu'est-ce qui est intéressant d'automatiser avec des outils comme Octopart ou alors des outils en fait d'automatisation comme Zapier. Moi, par exemple, je fais très peu de scripting, je fais très peu en fait de scrapping, c'est-à-dire aller récupérer des données sur Internet. Par contre, j'aime bien utiliser des outils comme Zapier pour relier différents logiciels et automatiser un certain nombre d'actions. Voilà. Et après, il y a aussi des outils de gros hacking qui permettent d'automatiser des choses simplement sur un réseau social, par exemple faire du follow-unfollow, par exemple aller publier des trucs, souhaiter des anniversaires, etc., etc. Et pour ça, en fait, vous avez des outils qui sont assez sympas, qui s'appellent Jarvis, qui s'appellent Phantom Buster, etc., etc. Voilà. et travailler un petit peu après sur votre tunnel de vente. Ça, on a quand même pas mal retravaillé ce chapitre. C'est un chapitre qui était assez light en fait, qui était assez orienté développeur, je trouve qui était pas très bon. Et là, c'est vrai qu'on a essayé de parler des outils de manière globale et pas se faire un focus trop sur les outils de scrapping parce que tout le monde n'utilise pas du scrapping. Voilà. Et donc là, c'est un chapitre qui reste quand même assez abordable. Le dernier chapitre, en fait, c'est la montée en puissance. La montée en puissance, en fait, on travaille en fait sur l'aspect vraiment, on va dire conversion, essayer de faire croître son business. Et en fait, c'est travailler sur le tunnel de vente, en particulier avec l'onboarding process, c'est-à-dire l'identification des nouveaux clients dans le parcours client, et savoir en fait comment on va faire que le client qui arrive dans notre entreprise ait une bonne expérience client, qui dit waouh, c'est sympa, ils pensent à moi, ils ont anticipé mes problèmes, et c'est créer un effet waouh. Voilà. Après, en fait, c'est travailler sur la rétention et la fidélisation, donc l'enquête de SAT, appeler les 5 premiers clients, etc., etc. Et après, le plan d'action pour tout simplement identifier qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas dans le tunnel, et tout simplement mettre une action chaque semaine pour augmenter vos revenus, qui peut être l'optimisation des revenus, des choses comme ça. Voilà. Donc, ce chapitre-là, finalement, il a assez peu évolué. Moi, je trouve que c'était assez synthétique, on n'avait pas beaucoup de pages, et je pense que ce n'est pas le plus essentiel de travailler là-dessus, parce que si vous avez le bon tunnel à air et que vous avez bien optimisé votre activité, vous allez voir en fait où ça ne va pas. Mais c'était vraiment important quand même d'en parler, parce que c'est bien beau de générer ses premiers prospects, mais il faut savoir un petit peu monter en puissance. Voilà. Et à la fin, il y a toujours la conclusion du bouquin. La conclusion, on l'a un petit peu changée, puisqu'en fait, on a rajouté 2 pages qui ont été faites par Jérôme Lecoeur, qui est en fait un avocat situé sur Rennes, un avocat spécialisé dans le droit du web et droit business, en fait, droit des affaires. Et donc, en fait, il m'a fait 2 pages avec les rappels juridiques et sur des actions de cross-hacking et qu'est-ce que ça peut coûter si on fait des choses qui sont hors la loi. Donc, ça, c'était vraiment important parce que. C'est un peu ce qui manquait, je pense, dans la version 1 du livre, parce qu'on disait, oui, si vous avez des doutes, consultez un avocat. Et c'est vrai qu'on ne donnait pas en fait tout ce détail-là. Et c'est vrai que je pense que c'était important de dire qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire en gros hacking. Voilà. Donc ça, c'est important parce que sur les forums, souvent, je vois des trucs qui sont publiés sur le gros hacking qui sont totalement illégaux. Et si une personne fait ça, qu'elle se fait choper, et ça va être un petit peu compliqué. Elle va avoir des petits problèmes. Donc voilà, je voulais vraiment rajouter ce chapitre pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire en gros hacking. Voilà. Donc après, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Hein, vous avez sur le site, vous tapez tout simplement livre gross hacking et tout simplement livre gross hacking et conseil marketing et vous arriverez tout simplement sur mon blog. Vous verrez en fait cet article-là et comme je vous le disais, j'ai 2 offres, tout simplement même 3 offres, on va dire. Vous avez l'offre avec vous pouvez acheter le bouquin directement. Vous allez sur Amazon, la Fnac, chez votre libraire à côté. Deuxième chose, en fait, tout simplement, vous pouvez acheter la formation gross hacking toute seule. Je crois qu'elle est encore en promo, mais le prix va bientôt passer à 100 € au lieu de 50, donc faites attention, là ça va bientôt se passer. Et après il y a l'offre bonus où vous avez la formation, donc vous allez avoir 10 heures pour l'instant de vidéos sur le gros hacking, plus en fait le livre dédicacé et je vous envoie ça tout ça par la poste. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous allez sur mon site internet ou vous me contactez si vous voulez le bouquin dédicacé ou n'importe quoi, vous envoyez un email à fred@conseilmarketing.fr. Fred, F-R-E-D, arrobase, conseil avec un S, marketing.fr ou .com. Allez, à bientôt et puis bon courage à vous. Ciao, ciao.